nouvelle entente de la notion de parasite.
C'est nouvelle entente au sens où, par rapport à ce qu'on avait dit jusqu'ici, tu vois, matrice disciplinaire, j'ai l'impression que c'est plus large.
Ah, c'est matrice disciplinaire.
Voilà, c'est comme ça. C'est ça, c'est vraiment une communauté de chercheurs, en fait. L'analyse de l'économie monde, bon, il y a les chercheurs hétérodoxes comme Aliès Lazzarato, mais finalement qui basent toute leur analyse guerre et capital hein, sur, bon, c'est une analyse de l'économie monde, enfin, pour ceux qui ont lu le livre, hein. Et puis les penseurs un peu qui ont structuré un peu ce courant de recherche comme Wallerstein, bon, Brodel en a parlé avant, mais du point de vue politique, il me semble c'est surtout Wallerstein qui a donné une impulsion assez forte à l'étude du capitalisme comme économie monde, avec cette périodisation un peu particulière qu'il a donnée. Il n'est pas le premier à la donner, etc. Mais bon, ouais, bref, c'était ma triste. Oui, voilà, c'est ça. C'est une quatrième sens, mais j'ai dit, hein, finalement, c'est qu'un élargissement, en un sens où c'est qu'un élargissement un peu abusif du terme paradigme à proprement parler. Mais je trouvais que c'était intéressant que Kuhn ait été conduit dans son analyse du paradigme à confondre le paradigme pris comme exemple, etc., avec finalement ce qui structure la perception d'ensemble d'une communauté de chercheurs et leur façon même de se comprendre, quoi. Il me semble que... Et là on est vraiment dans une tentative de restructuration. On a une tentative de constitution... Elle est constituée, cette communauté de chercheurs mondiale, etc. Mais bon, avec les limites... moi, ce que je pense avoir suggéré, c'est qu'il y a aussi des... je pense qu'il donne un outil très important dont je ne vois pas personnellement d'équivalent pour saisir les situations, l'objectivité massive des situations. Et en même temps, c'est une communauté de chercheurs, donc il faut se méfier, hein, parce que je veux dire par là que la question du vrai, si c'est la question de la subjectivation, et notamment de la subjectivation politique, n'est pas résolue par leur approche, elle n'est même pas posée par leur approche. Donc c'est pour ça que je parle de cette articulation. Pour le moment, on commence à... Là, c'est commencer à essayer d'articuler les choses dans cette séance-là.
Mais Jason Moore, je ne sais pas si tu vas en reparler par la suite, mais j'imagine que quand il dit que c'est la nature mise au travail, etc., ça change un peu l'objet de la politique, au sens où ça part plus du milieu. On peut imaginer que l'objet de la politique, ce soit faire fonctionner autrement le milieu, ou autrement, enfin, déplacer un peu. Et parce que ce que dit Wallerstein sur le... faut attaquer, enfin, ça va marcher quand le système est indéterminé. J'imagine que Jason Moore, il a une autre vision quand même du conflit.
Jason Moore, moi, jusqu'ici, ce que j'ai vu de lui, c'est qu'on lui a surtout reproché de ne pas intégrer dans son analyse justement les éléments antagoniques. Et lui, ce qu'il a dit, c'est en effet, je peux pas, enfin, avec une réponse épistémologiquement ferme, quoi, qui a dit oui, mais je pouvais pas m'occuper de toutes les choses à la fois. Quoi. Peut-être pas un hasard, mais il en parle très peu. Enfin, eux en parlent davantage, finalement des conflits et de l'historique des conflits qui ont eu pour objet les milieux, justement, qui ont eu pour enjeu les milieux de vie, etc., leur dégradation, etc. Moore, le livre en tout cas, hein, et même les articles qui sont sur Période, moi je connais que ça pour le moment, le livre « Capitalism in the Web of Life » et puis les articles sur Période, alors il y a peut-être d'autres choses. Hein, il y a un livre... Enfin, un livre qui s'appelle entre Capital au Seine, je sais pas quoi, mais qui est un livre, je pense, c'est une sorte de un colloque. Mais je l'ai pas lu. Je sais pas si des gens l'ont lu ici. Non. Bon, enfin, voilà.
L'écologie monde. Non,
y a bien, ça appelle bien un déplacement, même s'il n'est pas explicité, de la manière de notre manière de voir la politique et où on doit intervenir dans la politique.
Oui, bien sûr, mais comment, c'est pas évident. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une défense localisée des territoires, par exemple? Ça, c'est, il le dit pas. Enfin, à ma connaissance, il le dit pas. Je ne sais pas ce qu'il en pense, au fond. Je suis pas sûr qu'il considère que ce soit l'angle pertinent. Je suis pas sûr. Mais il n'en dit, à ma connaissance, il n'en dit rien. Mais c'est une des questions. C'est-à-dire que, a priori, ça conduit à se dire, bon, ben, une communauté Sioux dans le Dakota du Sud, hein, c'est bien ça, qui essaie d'empêcher, hein, c'est une sorte de, enfin, une destruction d'un, hein, pardon,
pipeline,
voilà, la construction d'un pipeline qui détruirait, bon, un endroit très important pour eux, dans lequel ils allaient, mais dont ils sont pas propriétaires, mais qui était vraiment lié à des traditions anciennes pour eux. C'est une lutte qui est assez, est lié. Alors c'est une lutte qui à la fois conjugue des éléments. Enfin, c'est une lutte, disons, qui conjugue des éléments d'attachement à des milieux naturels et aux déterminations spirituelles qui sont ajoutées ou qui sont attribuées, qui sont attachées par ces communautés à ces milieux-là. Donc on se retrouve dans des configurations qui sont souvent utilisées par qui sont souvent évoquées. Analysé par l'anthropologie d'Escola et d'autres gens comme Nassia Martin et quelques autres, quoi. Alors, est-ce que c'est ça le... Alors, je suis pas sûr qu'il ait le moins... Il n'a pas le même point de vue, pour le coup, que les anthropologues du type d'Escola, Nassia Martin. Je pense qu'il a un point de vue tout à fait différent. La question, c'est plutôt de savoir, nous, quel point de vue défendre.
Il semble, si on continue sur Moore, il semble amener notre regard sur la question de l'appropriation, et donc il semble nous appeler à défendre la désappropriation, quelque chose comme ça, et chercher les points fragiles de la des opérations d'appropriation. Ce serait ça le truc le plus immédiat par rapport à ce qu'il a construit.
Bon.
Alors la question, c'est savoir est-ce qu'on suit là-dedans.
C'est moi qui le dis comme ça. Lui, malheureusement, enfin, la seule phrase qu'il dit, c'est, enfin, c'est un Américain. Alors il parle de socialisme, d'un monde socialiste. Enfin, c'est un des rares moments dans son livre où il parle d'autre chose. C'est un monde dans lequel il y aurait une répartition un peu égalitaire des choses, et puis où effectivement, la nature serait pas dévastée. Mais c'est très vague, et ça se dit à peu près socialisme. Bon, c'est pas extrêmement satisfaisant. C'est pour ça que j'ai pas jugé spécialement nécessaire d'en parler, parce que c'est bien là qu'on voit qu'il y a qu'une perspective comme celle-là ne suffit pas à poser les questions qu'on veut poser, me semble-t-il. Ceci dit, voilà, le séminaire, bon... c'est une manière de s'obliger à avancer un peu plus loin, quoi. Enfin, c'est un dispositif d'autocontrainte, on disait ça, hein, finalement. C'est un dispositif d'autocontrainte. Là, on est toujours en train d'essayer de toucher les limites de ce qu'on a pu dire jusqu'ici, puis d'essayer de voir un tout petit peu, peut-être... pour le moment, c'est assez lent. Je pensais que ça serait plus rapide. Pour le moment, c'est assez lent, finalement. C'est pas très facile. C'est pas un hasard si Badiou et les autres, quand ils discutent entre eux, ils retombent sur finalement les mêmes alternatives que celles, enfin les alternatives telles qu'elles étaient formulées dans les années 70. C'est difficile de d'aller plus loin. Mais bon, il y a quand même des éléments. Voilà, il y a des éléments là. Par exemple, cette question, c'est là-dessus que j'aimerais moi vous questionner. Mais c'est l'admi. Hein, mais bon, cette question de l'articulation entre connaissance et vérité, telle qu'elle a été présentée là. Est-ce que ça vous paraît fécond ou pas? Et sinon, dites-moi pourquoi. Enfin, ça, c'est ça qui serait intéressant. Parce que c'est ça qui... Enfin, c'est ça qui... C'est tout intéressant ce qu'on dit, mais je veux dire... Là, c'est la question que je voudrais vous poser. Quoi. C'est pas fini, hein. Je veux pas dire que c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est pas tel quel, là, on a commencé à poser. Mais est-ce que c'est une voie intéressante, une manière intéressante? Une manière qui potentiellement féconde, ou bien c'est une impasse évidente, et vous le voyez déjà, et vous ne le dites pas parce que vous êtes gentil. Bon, c'est ça, la question. Qui pense que c'est une impasse évidente?
Ailleurs, il me semble que tu fais la distinction entre savoir et connaissance.
Mais en fait, c'est la triade. Mais c'est, alors, le problème, c'est de ne pas être trop lacanien avec, dans le rapport savoir-vérité, parce que savoir, vérité, connaissance, oui, c'est une triade. Enfin, savoir, c'est encore une autre question pour moi. C'est une question. C'est beaucoup plus large, les savoirs. C'est toutes les. Si on devait avoir une définition du savoir, je pense qu'on pourrait proposer une définition Wittgensteinienne plutôt. Savoir d'une technique maîtrisée. La maîtrise d'une technique, c'est là qu'on repère un savoir, quand une technique est maîtrisée. Que ce soit un certain jeu de langage, une certaine façon de faire des opérations mathématiques, une façon de se tenir dans un espace, etc. Ça, c'est des savoirs. Et comme dit Lacan, là, pour le coup, là, les oppositions savoir-vérité, justement, c'est beaucoup, hein, ça a beaucoup inspiré la dialectique de l'exception, hein, savoir-vérité, le savoir comme une espèce d'encyclopédie disponible, la vérité, ce qui fait exception au regard de ce savoir déjà disponible. Bon, c'est pas du tout ça, en tout cas, il me semble que... Enfin, c'est pas dans cette piste-là, quoi. C'est... Bon, voilà, c'est une autre... Mais c'est pour ça que j'ai pas, quasiment pas parlé de la notion de savoir. Là, j'ai voulu vraiment recentrer sur le rapport connaissance, au sens de la connaissance objective, au sens où la connaissance, c'est avoir un objet devant. C'est la définition la plus banale possible, non, de la connaissance. C'est quand on a un objet devant, dans le rapport de vérité. Alors, à un moment, Badiou parlait du sujet sans objet. C'est intéressant et indicatif, mais peut-être que ce serait plus intéressant de dire qu'il y a aussi un rapport à l'objet, mais l'objet n'est pas devant, mais avant, dans la vérité. Ce serait plus simondonien, ça. En amont. Il porte, il soutient une subjectivation. Donc c'est pas le même type d'objet, c'est pas un objet de connaissance. Ça a plus à voir avec l'objet du désir, hein, mais bon, ça a plus à voir avec ça. Voilà. Mais ça n'est pas. Faudrait... Lacan, faut toujours se méfier. Hein. Non. De toute façon, on peut pas le reprendre. Au moins, il a fait quelque chose de bien, c'est qu'on peut pas le reprendre tel quel lui. Pas possible. Vous en avez marre ou vous voulez que. Parce que là, il est moins 25. Théoriquement, on est en faute. Ça fait mal à la tête, c'est ça, là, en plus, non? Vous ne trouvez pas? Ben, c'est pas grave. Mais vous ne voulez pas me répondre juste avant qu'on sorte, parce que... Est-ce que quelqu'un pense que c'est une impasse évidente, là, ce rapport connaissance-vérité? Posé à partir de... Bon, on fait confiance à certains résultats énonçables par la Wallerstein comme une espèce de socle, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il sert un peu de socle pour Moore et les autres, hein, comme notamment dans sa périodisation, et la word ecology, alors pour dire comme ça, parce que si vous tapez sur internet, vous avez toute la liste comme ça, tout un site, tout un bon courant de pensée qui voilà. Il y a des résultats important qui me semble donner une perspective, des perspectives nouvelles, et qui me semble constituer le capitalisme en objet de pensée, constituer le capitalisme en objet de pensée, mieux que pour ma part je ne l'ai trouvé ailleurs. Voilà, c'est ça que je peux dire. À partir de là, comment on articule ça à ce sur quoi on réfléchit dans ce séminaire et sur quoi on a réfléchi quand on a travaillé avec Rancière, avec des gens comme ça, à savoir la question de la subjectivation politique. Comment on articule les choses? Une fois dit qu'il y a tout un tas de schèmes d'articulation dont on ne veut pas. On a vu lesquels. Oui, mais c'était au cas où il y aurait quelqu'un qui saurait pourquoi c'est une impasse, on prendrait une autre direction si c'était. Voilà, en tout cas c'est la proposition. Hein. C'est la... Hein?
Je peux pas répondre. Quoi, mais... enfin, la voie d'écologie, elle s'implique beaucoup aussi dans la critique un peu de la science et de la production des savoirs scientifiques.
Oui, on va.
Toute ouais. Cette histoire de la partition entre sciences naturelles et sciences. Sociale, elle était beaucoup basée sur le fait que la science naturelle, bon, c'est des vérités, puis ouais. La vérité, elle existe, quoi. Mmh. Et que la science sociale, c'est du bricolage, des trucs importés, et qu'en effet, ça a été démontré qu'en fait, les vérités scientifiques étaient tout aussi bricolées, enfin, passées par toute une série de productions et constructions de médiation pour installer des vérités aussi. Du coup, instinctivement, ça, j'ai l'impression que ça a ouvert, disons, à l'idée qu'il n'y avait pas un seul centre de vérité possible, mais plutôt des pluralités de vérités. À chaque fois, et quasiment il faut. Enfin, je sais pas, j'ai un taux de connaissance à la louche, et sans doute beaucoup trop vite, ça rapporte tout de suite à l'idée connaissance des savoirs scientifiques qui sont utilisables dans différents contextes, des choses qu'on incorpore et qu'on peut réutiliser, etc. Avec plus ou moins de succès ou plus ou moins d'idées que le territoire peut être absolument, disons, inexistant, au sens où ces connaissances-là peuvent être mobilisées dans n'importe quel contexte, par-delà toutes les différences, et peuvent être. Complètement désitué et s'énoncer du point de vue de celui qui n'est nulle part, quoi, mais qui aurait raison tout le temps. Dans la vérité, par rapport à la subjectivation politique, il y aurait une autre idée. Mais je trouve ça un peu trop à la louche, dans le sens où ça ferait très vite vérité comme quelque chose de contextualisé, situé par rapport à une subjectivité ou une situation. Et connaissance comme savoir désincorporé, désitué, qu'on pourrait utiliser constamment. Mais là, c'est un peu caricatural.
Oui, parce que là, c'est pour le coup. Ça... Pour le coup, c'est pas comme ça dans ce... C'est-à-dire que c'est pour ça que la prochaine fois, je veux repartir de cette critique de la... Enfin, c'est-à-dire la critique de la... l'analyse de la manière dont la science moderne a participé de la construction de l'économie monde. C'est un des aspects de l'analyse de Moore. C'est un aspect classique hein, d'analyse. Bon, mais la manière dont lui analyse ça... Ça me semble intéressant, justement. Mais pour moi, je pense que, justement, il ne faut pas s'en tenir à cette opposition. Alors, ça engage le diagnostic qu'on fait du travail de Latour ou de gens comme ça, quoi, hein, par ailleurs. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas s'en tenir à l'opposition où la vérité serait... On serait très, très kierkegaardien et puis... on attacherait la vérité à la subjectivité, la vérité et la subjectivité, enfin, dans la formule la plus condensée possible qu'on trouve dans le post-scriptum, et opposé à ça, la connaissance qui serait une sorte de mystification, finalement, qui procède de l'élision du sujet. C'est plus intéressant, l'analyse que fait Foucault dans des régimes de vérité, où la démarche objective est un des régimes de vérité, n'est pas le seul, et un régime de vérité qui a la particularité de procéder à l'élision du sujet, tout en construisant un sujet de vérité. Mais c'est finalement le régime de ce régime, la connaissance objective de type scientifique, c'est un régime de vérité en ce sens. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a des choses qui sont apportées par des analyses objectivantes, comme le sont celles de Moore. C'est pas objectivement. Wallerstein fait la critique, par exemple, quand il veut... Ah oui, j'ai oublié de dire, par exemple, quand il... Ben, c'est quand même clair, je pense, mais quand il veut abattre la cloison science de la nature, science humaine, c'est pas pour emprunter la voie réductionniste. Enfin, il le dit. Forcément, c'est pour compliquer dans le sens de non pas réduire des déterminations sociales à des déterminismes biologiques ou je sais pas des choses de ce type-là. Quoi. C'est pas du tout dans ce sens-là. Donc c'est aussi pour compliquer l'approche de connaissance elle-même. C'est à l'opposé de la voie réductionniste. Mais il me semble que ces analyses historiques très objectivantes de ce que c'est finalement massivement le capitalisme sont des analyses nécessaires. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe, il me semble, aujourd'hui. On se scandalise, quoi. Ou on dit que c'est pas bien, ou on dit... Bon, enfin, je sais pas, ou on dit... la police, c'est pas bien. Enfin, je sais pas, on dit quand même... On passe dans tout un tas de choses qui ont leurs limites, quoi. Il me semble que c'est... Finalement, que les tentatives de subjectivation politique doivent réapprendre à se nourrir de connaissances de ce type-là, sans retomber dans les mythes anciens. Quoi. C'est ça qui va nous dire où agir. Non, il ne faut pas attendre ça de ces analyses-là. Ce n'est pas elles qui vont nous dire ni où, ni comment, ni même où agir. Voilà. On en est là. Enfin, bon, personnellement.
Sur cette base-là, parler du capitalisme comme une logique de l'illimité. Puis, un peu plus tard, après, tu as pu régler le problème de la nomination de l'ennemi assez facilement, selon tes dires. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté précisément là. Si le capitalisme se pose comme tu viens d'expliquer, comme un défi pour la connaissance, puis qu'il faille revenir à des connaissances objectives sur le capitalisme pour arriver à produire des subjectivations politiques qui puissent faire prise sur le réel, j'ai l'impression qu'il va falloir interroger la logique de l'illimité de façon un peu plus immanente ou exploratoire. J'ai l'impression que c'est là dans la pensée du paradigme que tu déploies. Mais j'ai l'impression que c'est là, en tout cas, moi, c'est ce qui m'appelle ici. Là. Qu'est-ce que c'est cette illimité, puis comment on s'y attelle pour comprendre. Puis là, pour le coup, je suis bien d'accord qu'il faille de la connaissance aussi objectivement que possible. Mais dans un... qui embrasse cette logique de l'illimité de l'intérieur. Pour moi, c'est ce qui fait mystère, disons. En tout cas, quand on arrive à poser le capitalisme comme ça, comme univers, hein, comme singularité unique, en tout cas, moi, ce qui se pose ensuite, c'est pourquoi ça fait mystère? Pourquoi c'est si difficile de comprendre le fait un du capitalisme mondial? Puis j'ai l'impression qu'on se bat contre beaucoup de fantômes, mais bon, ça, c'est... Les fantômes de la disciplinarité, des modes d'organisation, des connaissances que l'Occident a produit dans les deux derniers siècles. Enfin, après, tu as tout évoqué, ces forces avec lesquelles on doit composer pour essayer de dégager un nouveau rapport à la vérité. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est pas si facile de nommer l'ennemi, puis qu'il faut presque l'expérimenter, l'ennemi, pour s'en faire une idée plus convaincante.
Moi, je tiens à ce nom-là. Pas par choix arbitraire, je pense, hein, mais parce que c'est le nom guide, non ? Quelque chose. On n'agit pas de la même façon si on ne sait pas qui est l'ennemi, si on ne sait pas le nommer. Quand bien même le nom est toujours insuffisant. Je suis même pas sûr qu'il le soit. Mais...
Bernard, tu es
C'est une drôle de bestiole. C'est un non-humain qui, en tout cas... Bon, c'est peut-être un espion. C'est peut-être un espion qui nous dit il est moins le quart. Je vais essayer de ne pas l'écraser.